c'est bien lorsque l'influence des religions sur les pouvoirs publics recule que le droit des femmes connaît des progrès notables.
Tout est possible pour elles. Ça, c'est possible dans un cadre laïque, ça n'est pas possible dans un cadre religieux.
À l'occasion du mois de la laïcité, la Ligue de l'enseignement, un immense réseau d'associations d'éducation populaire, vous propose une série de podcasts sur cette notion souvent mal comprise, mal aimée ou mal transmise. Je m'appelle Apolline, je suis journaliste, et dans cet épisode, j'ai discuté avec Martine Storti et Ismaïl Ferhat du lien entre laïcité et égalité femmes-hommes. Martine Storti est une militante féministe depuis toujours, elle a été professeure de philosophie, journaliste à Libération, elle a travaillé en cabinet ministériel pendant les septennats de Mitterrand, puis elle a rejoint l'éducation nationale, en tant qu'inspectrice générale.
Je suis évidemment très concernée par la question des femmes et par la question de la laïcité, surtout dans un moment où, en effet, tout cela est assez conflictuel, confus même.
Ismaïl Ferhat est professeur des universités à l'Université Paris-Nanterre et chargé de mission laïcité à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'Académie de Versailles. Son lien à la laïcité est donc scientifique puisque c'est son sujet de recherche et professionnel puisqu'il forme des futurs enseignants à ce sujet.
Cette question de la laïcité m'a beaucoup intéressé comme chercheur, et notamment le rapprochement très récent entre la question laïque et la question égalité femmes-hommes.
Bonne écoute sur S'associer pour agir, le média de la Ligue de l'enseignement. Laïcité et égalité femmes-hommes, au premier abord, le lien entre les deux sujets n'est pas évident. Parce que l'histoire de la laïcité comporte peu de femmes, et parce qu'au début du XXe siècle, les combats menés pour la laïcité ne se superposent pas du tout avec une lutte pour l'amélioration de la condition des femmes. J'ai donc demandé à Martine et Ismaïl si la laïcité, à ses débuts, était un combat pensé par les hommes et pour les hommes. Martine commence en nous parlant de deux épisodes des prémices de la laïcité qui ont complètement exclu les femmes. La Révolution française d'abord, puis la loi de 1905.
Si on prend par exemple un moment de début d'esquisse de laïcité qu'est la Révolution française qui guillotine le roi, ce qui n'était pas rien, hein, puisque c'était un roi de droit divin, donc mélange complet du politique et du religieux, la Révolution française qui crée les droits civils, qui crée la citoyenneté, qui abolit l'esclavage, ne fait pas entrer les femmes dans la citoyenneté. Et pourtant, c'est un moment, en effet, qui commence à esquisser la laïcité. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Si on prend le contexte de la loi de 1905, la grande loi de laïcité qui fait la liberté de conscience d'une part et la séparation des églises et de l'État d'autre part, on voit bien qu'il y a une espèce de pacte de genre, c'est-à-dire que les républicains laïques sont pris dans l'idée dominante à l'époque que, en effet, les femmes, l'espace public, c'est les hommes, et l'espace privé, c'est les femmes. Ils sont dans cette conception-là des choses qui remonte à des millénaires.
Pour être totalement juste avec les ancêtres républicains, et on peut intégrer la Ligue d'enseignement qui, quand même, était un des piliers du combat républicain, notamment en matière scolaire, les républicains laïques avaient ouvert quand même des espaces, soit de liberté, soit d'émancipation pour les femmes. Je pense notamment à la création des lycées féminins, qui a été très violemment combattue par l'Église catholique. Il faut quand même rappeler ce qu'étaient les caricatures de l'Église qui disaient que les lycéennes seraient les futures femmes débauchées, qui demanderaient le divorce, qui allaient fumer. Enfin, c'était quand même tout à fait intéressant comme rhétorique, donc sexiste. De même, il y a eu toute une réflexion pour pouvoir former, émanciper les femmes chez les républicains laïques. Cependant, c'était toujours effectivement sous le contrôle des hommes, hein, et sans une volonté d'égalité.
Mais si on regarde les propos d'un Camille C qui présente la loi pour la création de l'enseignement secondaire pour les filles, il tient des propos à ce moment-là qui renvoient les femmes à « il faut que les femmes fassent des études secondaires, mais pour mieux mettre en œuvre les devoirs » que la nature leur donne. Et qu'est-ce que c'est les devoirs que la nature leur donne? C'est essentiellement de faire des enfants, de s'occuper de la famille et d'être une bonne épouse et une bonne mère. Donc vous voyez, ils sont quand même assez loin d'une vision émancipatrice des femmes.
Mais même s'il n'est pas fait consciemment, le lien entre la laïcité et l'égalité homme-femme existe de fait, puisqu'en luttant contre l'obscurantisme et en mettant les religions à distance, la laïcité permet de limiter l'emprise des religions sur la vie et le corps des femmes. C'est ce que Martine nous explique.
Les droits des femmes et la laïcité, l'égalité femmes-hommes et la laïcité se rencontrent parfois, mais ne se rencontrent pas à leur naissance. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la laïcité, dans la mesure où elle éloigne les religions, où elle met à distance les religions, et dans la mesure où elle prône la liberté de conscience, l'autonomie, la capacité à penser par soi-même, la raison, etc., etc., évidemment qu'elle dessine un cadre qui peut favoriser les luttes des femmes. Mais la laïcité ne suffit pas. Ce qui a fait la conquête des droits, c'est qu'il y a eu des luttes. Et ça, c'est tout à fait important. La laïcité, oui, mais sans les luttes, même avec la laïcité, il n'y aurait pas eu la conquête des droits des femmes et une amélioration donc, de la situation des femmes, en particulier dans un pays comme la France.
Alors, quand arrive le fameux croisement entre les luttes laïques et celles féministes ? On pourrait croire que ça survient dans la décennie des années 70, avec la création du mouvement de libération des femmes et la lutte pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Mais non, ça arrivera encore plus tard, pendant les années 80. Ismaïl a trouvé pas mal d'archives qui témoignent de ce chemin, et Martine confirme que c'est la façon dont ça a été vécu dans les milieux militants.
Durant les années 60-70, donc durant le retour de ce qu'on appelle la seconde vague du féminisme, la question laïque n'est pas très présente. Ça ne veut pas dire qu'à titre personnel, les militantes féministes ne sont pas laïques. Je pensais à Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, c'est une militante féministe extrêmement importante. Elle est par ailleurs une militante laïque tout à fait convaincue. Mais ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'elle crée l'association Choisir, qui combat pour le droit à l'IVG, la question laïque n'apparaît pas. J'avais retrouvé le petit ouvrage que l'association Choisir avait produit sur la question du droit à l'IVG. Ce qui est assez intéressant en le relisant, c'est que l'association met systématiquement en avant des médecins catholiques, en disant bien, voilà, notre combat n'est pas un combat contre les religions, c'est un combat pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Et donc, jusqu'aux années 70, les féministes, qu'elles soient laïques ou alors d'autres sensibilités idéologiques, ne vont pas forcément invoquer la question laïque, même si, de facto, les opposantes et les opposants à l'IVG sont issus des groupes religieux, notamment de l'Église catholique, ça c'est très net. Mais les féministes, pour autant, ne répondent pas par une revendication laïque.
J'ai été une de ces militantes du mouvement de libération des femmes dans les années 1970, donc du siècle précédent. Bien sûr que la rencontre s'est faite sur quoi ? Elle s'est faite essentiellement sur la question des droits sexuels et reproductifs. Mais le mot laïcité n'était pas vraiment prononcé. À ce moment-là, on ne parlait plus de laïcité. On n'en parlait plus parce que ça n'était pas un sujet, ça n'était pas en débat. On était dans un pays laïque et la question ne se posait plus. Mais néanmoins, on se battait. On se battait contre l'Église catholique. La question des droits sexuels et reproductifs, la question de l'avortement, en effet, était un combat contre l'Église catholique. L'Église catholique, plus que d'ailleurs les protestants et les juifs, il faut quand même tout à fait le signaler, les catholiques ont été absolument, et avec une constance particulière, contre toutes les conquêtes des droits des femmes. L'Église était contre la contraception, elle a été contre le droit à l'avortement, elle a été contre le divorce. Mais on se battait autant contre l'ordre des médecins, on les qualifiait à l'époque de conservateurs, de réactionnaires, et qui étaient absolument aussi contre l'avortement, et même pour certains médecins, contre la contraception. Mais le mot laïcité n'était pas prononcé.
La rencontre est très tardive, elle date des années 80, pour trois raisons. Première raison, le camp laïque, il est très désorienté après la défaite de 84, la fin de l'école privée comme étant un enjeu des revendications et des politiques publiques voulues par les laïcs, avec l'abandon du projet Savary. Le second point, c'est le fait que la société française change religieusement. C'est le moment où le catholicisme devient progressivement une religion minoritaire. Culturellement, aujourd'hui, la France est autre, si on peut dire, et plus majoritairement catholique. Le troisième point, c'est l'émergence de nouveaux groupes religieux, notamment l'islam. Et lorsqu'on mélange les trois, il va y avoir une réflexion tant chez les laïcs que chez une partie des féministes sur comment réorienter le combat laïque. En mars 89, le Comité national d'action laïque, dont fait partie la Ligue d'enseignement, donc c'est un groupe de défense de la laïcité dont fait partie la Ligue, rencontre le planning familial. Et dans le compte-rendu de la rencontre que j'ai retrouvé dans les archives, les militants laïcs disent « Ah, c'est intéressant, le combat féministe pourrait être un nouveau sujet pour nous, et donc il faudrait qu'on approfondisse la chose. » Pour la petite histoire, cette réunion a lieu exactement 6 mois avant l'affaire du foulard de Creil en 89.
Vous avez tout à fait raison, c'est essentiellement la fin des années 80, quand se pose la question d'un renouveau de l'islam sur la scène française. Et en effet, l'épisode du voile, l'affaire de Creil, des trois élèves qui arrivent voilés à l'école. À ce moment-là, on reparle de la laïcité, mais c'est à ce moment-là aussi qu'il y a un débat sur qu'est-ce que c'est la laïcité, et avec des conceptions différentes de la laïcité. Les uns vont parler d'une laïcité fermée, une laïcité ouverte, une laïcité qui exclut, une laïcité qui inclut, une laïcité qui est libérale, une laïcité qui est intransigeante. Donc il y a une adjectivation parce qu'il n'y a pas consensus sur la définition de la laïcité, à part celui sur la liberté de conscience et la séparation des églises et de l'État. Pour le reste, qu'est-ce qui se passe ? Il y a à la fois une défense légitime de la laïcité par rapport à des gens qui veulent mettre la religion à nouveau au cœur de l'espace public et même affirmer que les lois religieuses sont supérieures aux lois civiles, aux lois d'un État laïque. Mais il y a aussi, hélas, une instrumentalisation de la laïcité. C'est-à-dire que des partis qui ont historiquement été toujours contre la laïcité et qui ont été d'ailleurs aussi historiquement toujours contre les droits des femmes, et je parle de la droite extrême et de l'extrême droite, se sont, à partir de ces années-là, révélés des défenseurs incroyables de la laïcité. Mais moi, j'y vois surtout une instrumentalisation de la laïcité et une instrumentalisation aussi du féminisme dans une perspective ouvertement raciste et anti-musulmane. Mais cette instrumentalisation a son pendant dans l'autre camp, si j'ose dire, à savoir qu'on va tout d'un coup se mettre à qualifier la laïcité de raciste, d'islamophobe. Non, ce n'est pas la laïcité qui est raciste, c'est l'instrumentalisation par certains courants politiques de la laïcité. Et donc, il faut bien faire la différence.
Là, Martine vient d'ouvrir un nouveau sujet, celui de l'instrumentalisation politique de la laïcité. Et en effet, cette instrumentalisation surgit dans les médias au même moment que le féminisme s'empare de la laïcité, et inversement, c'est-à-dire à la fin des années 80, et notamment lors de l'affaire de Creil. C'est un sujet qu'Ismaïl connaît bien puisqu'il a coordonné l'écriture d'un ouvrage collectif qui s'appelle « Les foulards de la discorde » et qui revient sur les différentes controverses qui mêlent le statut des femmes, l'islam et la laïcité.
Alors, il s'agit d'un ouvrage collectif qui est sorti 30 ans exactement après l'explosion médiatique de l'affaire de Creil. Donc, en deux mots, pour le rappel, l'affaire, c'est effectivement trois collégiennes de Creil, donc une commune relativement pauvre de l'Oise, au nord de la région parisienne, qui arrivent devant le collège avec des foulards, tentent de rentrer en cours avec, sachant qu'elles l'avaient déjà fait l'année précédente et ça avait été réglé sans aucun souci. Parce qu'il y a souvent des idées aussi sur l'affaire, il n'y a pas d'exclusion. En fait, ces élèves n'ont jamais fait l'objet d'une mesure de vie scolaire, sinon de ne pas pouvoir rentrer en cours, mais elles n'ont pas été exclues, hein, il n'y a pas eu de conseil de discipline. Donc c'est vraiment un micro-sujet, enfin, quand on y réfléchit 30 ans après, on peut dire que c'était un micro-sujet au niveau local, mais la médiatisation a fait que c'est devenu le sujet majeur de l'époque. Ce qu'il faut souligner, c'est que toutes les familles philosophiques, toutes les organisations, tous les groupes politiques ont été divisés par l'affaire. C'est-à-dire que de l'extrême gauche à l'extrême droite, quels que soient les groupes religieux, quelles que soient les associations, tout le monde a été divisé. C'est quelque chose de très très frappant. Et le clivage n'est pas un clivage droite-gauche. Et ceci a touché les féministes, parce que chez les féministes, il y a eu une forme de grand schisme à ce moment-là. On trouve, on va dire, trois tendances, et notamment au planning familial, c'est très net, qui sont apparues. Première tendance, qui va être la tendance, on va dire, Gisèle Halimi, et d'une partie des militants du MLF, qui est, on va dire, la partie traditionnelle, personnellement anticléricale et assez méfiante vis-à-vis du religieux, ça va être de dire le foulard c'est de l'oppression et donc nous féministes on ne peut pas accepter qu'une femme porte un signe qui en quelque sorte signifie visiblement son infériorité et vise à entourer son corps d'une forme de honte, hein, le corps de la femme devrait être caché. Seconde position totalement opposée qu'on va retrouver à la LCR, hein, donc aujourd'hui NPA, enfin, c'est une partie parce que le mouvement est aussi divisé, c'est de dire ok, le foulard, c'est une forme, effectivement, de marqueur que seules les femmes portent. On n'est pas d'accord. À l'époque, il n'y a aucune féministe qui défend le foulard. Pour être assez clair, là, il y a consensus. Mais la priorité est de scolariser ces filles, parce que si jamais elles ne sont pas scolarisées, si on les exclut, le risque, c'est qu'en quelque sorte, elles perdent le bénéfice de l'émancipation par le savoir, et donc on les renvoie dans les foyers. Donc, c'est une position qui, pour le coup, est en défaveur, hein, de la cristallisation des débats sur le foulard. Troisième position, qui va être assez importante dans le mouvement féministe, c'est on ne sait pas comment faire. C'est quelque chose qui est très frappant, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment se positionner, on ne sait pas quelle position prendre, et donc il va y avoir de nombreuses militantes qui vont être désarçonnées pendant plusieurs années, hein, en disant, sans défendre le foulard, parce que là encore, à l'époque, il n'y a pas de discussion sur le sujet, qu'est-ce que l'on fait pour ne pas stigmatiser une population qui est déjà suffisamment stigmatisée comme ceci, en l'occurrence les musulmanes, et en même temps, comment on fait pour ne pas accepter un retour du religieux dans un contexte, il faut quand même le rappeler à l'époque, où il y a un vrai durcissement de toutes les religions sur le droit des femmes. C'est la seconde partie du pontificat de Jean-Paul II qui durcit le ton sur l'IVG et la contraception. C'est le moment où l'Église catholique se redurcit sur cette question. C'est le moment où les courants évangéliques vont faire de l'IVG leur cible principale, avec d'ailleurs des conséquences mondiales. C'est le moment de la montée de l'islamisme, où bien évidemment le droit des femmes, ce n'est pas forcément la priorité de ces mouvements. Donc on a un contexte où les grandes religions on va dire monothéistes, durcissent le ton de manière tout à fait nette durant les années 80 contre le droit des femmes, ce qui fait que les féministes font bien comprendre que les religions qui sont déjà pas vraiment des amies de l'égalité femmes-hommes sont désormais des ennemis avoués, déclarés de toutes les avancées et évolutions féministes.
Pour moi, le féminisme doit s'emparer de la complexité. Donc la question du voile est en effet une question complexe. Est-ce que c'est un signe religieux ? Est-ce que c'est un signe sexiste ? Alors on peut dire que c'est un signe religieux sexiste. C'est un discours, en effet, sur le corps des femmes. Alors, le corps des femmes, les femmes doivent être vierges au mariage. Pour d'autres, les femmes ne doivent pas avoir de jouissance sexuelle, donc on leur coupe le clitoris ou on les infibule. Pour d'autres, les femmes doivent se cacher. Pour d'autres, les femmes ne doivent pas pouvoir faire l'amour sans être enceinte, etc., etc. C'est toujours quelque chose sur le corps des femmes. Et très franchement, j'admets tout à fait, très vite, j'ai admis que des femmes pouvaient porter librement le voile. Nous ne sommes pas en Iran, nous ne sommes pas en Afghanistan. Des femmes peuvent porter librement le voile. Mais ce n'est pas parce qu'elles le portent librement que ce n'est pas un signe de soumission des femmes. On peut porter librement un signe de soumission. Mais encore une fois, il ne faut pas en conclure que toute défense, toute accusation du port du voile ne renvoie pas à des enjeux politiques. Bien sûr que c'est des enjeux politiques. Bien sûr qu'il y a une instrumentalisation de toutes ces questions par rapport à d'autres questions d'ordre politique.
Cette instrumentalisation de la laïcité autour de la notion d'identité est assez récente dans l'histoire politique. En fait, c'est assez facile de repérer quand est-ce qu'elle émerge, ça concorde exactement avec l'émergence du Front National et l'apparition de Jean-Marie Le Pen sur la scène médiatique en France.
Il est intéressant historiquement de remarquer que la question de l'identité et des revendications identitaires qui avaient disparu de la scène politique française à cause de ce qui s'était passé dans les années 30 et à cause de ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les revendications identitaires, on sait à quoi elles ont abouti. Elles ont abouti à l'extermination des Juifs d'Europe. Donc cette question de l'identité est devenue une question réglée, tabou, on n'en parlait plus. Et quand est-ce qu'elle ressurgit sur la scène française, et pas que française, mais tenons-nous-en à la scène française, elle ressurgit à partir du retour sur la scène politique du Front National. D'abord l'élection de François Mitterrand en 1981, et puis ensuite il y a eu le retour sur la scène française du Front National avec Jean-Marie Le Pen, et là on a commencé à dire les immigrés, c'est pas la France. Alors c'était plus les immigrés italiens, espagnols des années, ou polonais des années 30, c'était les immigrés noirs et arabes des années 50-60, et on disait tout ça remet en cause l'identité française. Au fil des années, au fil des décennies, la question de l'identité s'est greffée sur la question de la laïcité et sur la question des droits des femmes, et surtout sur la question d'une religion particulière qui prenait de l'importance, la religion musulmane, encore une fois, dans ses dérives islamistes, et ensuite il y a eu ce que vous connaissez comme moi, tous les attentats, le terrorisme, etc. Ça, c'est sur la scène française. Mais quand est-ce que tout commence sur la question du retour des religieux ? C'est quand même en 1979, en Iran, avec la victoire de Khomeini.
Sans la libération des femmes, la révolution n'a aucun sens. Ce slogan, elles sont plusieurs milliers à le scander dans les rues début mars. Ce n'est pas comme on l'a dit souvent pour protester uniquement contre le port du voile. Elles sont descendues spontanément dans la rue parce que les premières déclarations du nouveau gouvernement ont pu leur faire croire que là comme ailleurs, elles seraient les oubliées de la révolution. Alors elles ont réagi. On les accusera très vite d'être des contre-révolutionnaires. Pourtant, femmes en tchador pour réclamer le départ du chat, femmes dévoilées ensuite, pourquoi vouloir les opposer ? Avant tout, ce sont des femmes dans l'action, sorties de leur foyer pour crier leur désir de plus de démocratie, ensuite défendre leur droit d'être elles-mêmes.
Ce que vous venez d'entendre, c'est l'extrait d'un reportage diffusé sur Antenne 2 en 1979. Le sujet est intéressant car d'une part, il fait écho aux soulèvements qui ont lieu actuellement en Iran, mais d'autre part, c'est un bon exemple de situation politique où la lutte contre l'intégrisme et la lutte contre l'oppression des femmes sont les deux facettes d'une même pièce. En 1979, Martine s'est rendue en Iran pour écrire pour Libération. Elle raconte.
C'était tout à fait intéressant parce qu'en effet, les femmes, elles ont souhaité le départ du Shah, elles ont souhaité l'abolition de ce régime et elles ont souhaité, il faut tout à fait l'affirmer, le retour de Khomeini. Ce qu'elles n'avaient pas prévu, c'est que Khomeini, très vite, peu de temps après son retour, il rentre en janvier 79 et en février, début mars, il décide que les femmes doivent porter le voile. Alors, pas toutes évidemment, mais un certain nombre de femmes sont descendues dans la rue sans voile pour dire non. Et en effet, pour dire non seulement au voile, mais dire non aussi à une conception de l'inégalité femme-homme, mais plus largement à ce qu'elle pouvait deviner comme un régime qui allait devenir dictatorial et totalitaire, et qui le serait pas seulement contre les femmes, mais contre toute revendication démocratique.
La révolution iranienne de 1979, ainsi que l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS la même année et tout ce que ça a représenté pour les droits des femmes, ça a créé un vrai tournant dans la façon dont, dans les médias, on a évoqué les questions d'égalité femmes-hommes, de laïcité et de religion musulmane. C'est Ismaïl qui fait cette analyse.
Ce qui est assez intéressant, notamment lorsqu'on va avoir le développement du débat sur le foulard à l'école, donc entre 89 à fin de Creil et 2004, donc l'édiction de la loi interdisant les signes dits ostensibles à l'école publique, très souvent le débat va être renvoyé sur « oui, mais voyez ce qui se passe pour les femmes en Iran, en Algérie, en Afghanistan ». Et donc, c'est bien en quelque sorte ce tournant iranien et afghan de 79 qui va faire que systématiquement, lorsqu'on va l'année suivante évoquer la question du droit des femmes au niveau mondial, on va faire une espèce de triangle d'incompatibilité entre droit des femmes, laïcité d'une part et islam de l'autre.
Finalement, ce que nous a montré cette conversation, c'est qu'en protégeant la société de l'obscurantisme, en tenant les religions à l'écart de la sphère publique, la laïcité protège les progrès de l'égalité, quels qu'ils soient. Ça inclut l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi les progrès démocratiques notamment. Alors pour conclure cette conversation, j'ai demandé à Ismaïl et Martine de m'expliquer le plus simplement possible pourquoi et comment lier les luttes laïques et les luttes féministes.
La laïcité, c'est la séparation entre les religions et l'État, et le féminisme, c'est la recherche de l'égalité, ou du moins de la fin des inégalités entre femmes et hommes. Si on prend ces définitions, on pourrait se dire que le rapport entre les deux, il n'est pas évident. Mais effectivement, le plus souvent, lorsque des groupes, des sensibilités, des secteurs de la société demandent une régression du droit des femmes ou alors refusent, à contrario, une progression du droit de ces mêmes femmes, très souvent, ces groupes, ces segments de la société, ces organisations ont un caractère religieux ou sont inspirés d'une sensibilité religieuse. C'est un cadre dans lequel l'État, les pouvoirs publics ne sont pas contrôlés par les religions que le droit des femmes et l'égalité femmes-hommes paraissent le plus assurés. Sortons deux secondes des frontières françaises. Les pays dans lesquels les conditions de vie sont les moins inégales entre femmes et hommes sont aussi les pays où l'influence du religieux sur le politique est la plus faible. Et donc cette tendance, qui est une tendance de fond, que l'on peut repérer dans tout l'Occident, est la preuve, ou tout au moins est une des preuves, qui souligne que le droit des femmes n'est pas indépendant du poids des religions dans un pays donné. Et en règle générale, c'est bien lorsque l'influence des religions recule sur les pouvoirs publics et sur la capacité de prendre des décisions pour les sociétés, que le droit des femmes est à la fois plus protégé et connaît des progrès notables.
Quand on est dans un cadre laïque, on est dans un cadre où les êtres humains, hommes ou femmes, sont libres et autonomes. Il n'y a pas de loi divine au-dessus d'eux. Les lois, elles sont faites par des êtres humains. On peut évidemment avoir des lois religieuses dans un espace privé. On peut être chrétien, musulman, catholique, juif, protestant, bouddhiste, athée aussi, ce qu'on veut. Mais tout ça ne doit pas peser sur les lois et sur l'organisation de la société. Et pour les femmes, pour les filles, pouvoir choisir sa vie, n'être pas être obligé de se soumettre à un diktat religieux ou communautariste, quel qu'il soit, donc pouvoir être libre, c'est pouvoir se réaliser, c'est pouvoir s'accomplir dans son existence, sans être coincé par des a priori de comportement, des a priori de pensée, des a priori de religion, des a priori de culture, et enfermé dans tous ces a priori. Et en ce sens-là, Aujourd'hui, les jeunes filles vraiment doivent se dire tout est possible pour elles. Ça, c'est possible dans un cadre laïque, ça n'est pas possible dans un cadre religieux. La laïcité ouvre tout ça, mais elle ne suffit pas. Elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante. À l'intérieur de ce cadre, encore faut-il se battre, encore faut-il lutter.
Merci beaucoup à Martine Storzi et Ismaïl Ferhat pour leurs réponses sur le sujet de la laïcité et de l'égalité femmes-hommes. Si vous souhaitez en apprendre plus, je vous invite à consulter la section « Pour aller plus loin » sur le site laligue.media. Dans le prochain épisode de cette série, nous aborderons le sujet des droits culturels, de la liberté de création et de diffusion, en lien avec la liberté de conscience que permet la laïcité. Merci pour votre écoute. Et à bientôt sur S'associer pour agir.